Hello famille, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement, ça va. Après un petit moment d'absence, je reviens avec des épisodes encore plus enrichissants et plus terre à terre, si je peux dire ça comme ça. En février, j'avais fait en fait une liste de sujets tout aussi pertinents les uns que les autres, mais je les avais pas vraiment réalisés et je ne saurais pas vous dire pourquoi. Et là, en fait, en faisant un sondage sur le compte Instagram de Soul for Soul, donc si vous n'êtes pas encore abonné, c'est arrobase Soul, S-O-U-L, 4, S-0-U-L, Soul for Soul, sur Instagram. Et en fait, le premier sujet de cette liste de 8 qu'on va aborder est la foi et les doutes. Donc c'est le sujet qui a remporté au sondage. Et faut savoir que là, du coup, on va parler de la foi et les doutes. Est-ce que c'est normal de remettre les choses en question? Faut savoir qu'il y a 2 jours, j'ai commencé à lire L'insoutenable légèreté de l'être de Kundera. Et en fait, il expliquait que selon Parménide, qui est un philosophe 5e siècle avant Jésus-Christ, l'univers est divisé en couples de contraires. C'est-à-dire qu'on a la lumière et l'obscurité, l'épais, le fin, le chaud, le froid. Et en fait, chaque couple serait vraiment rattaché à une idée de positif-négatif. Mais lorsqu'on arrive sur le couple pesanteur-légèreté, c'est plus compliqué. Et ça, c'est ce qu'il essaye de développer dans son livre. Mais moi, ça m'a vraiment fait penser au couple doute et foi. Parce que dans ce couple, en fait, on pourrait voir le doute comme la face négative de la pièce à laquelle appartient aussi la foi. Je sais pas si tu vois. Comme si le doute et la foi, en fait, seraient deux faces d'une même pièce. Mais en réalité, je trouve que condamner le doute comme quelque chose d'absolument négatif, c'est pas juste, tout simplement parce que le doute est normal, nécessaire et universel. C'est une sorte d'expérience de la vie humaine de tout le monde, tu vois. Mais pour organiser le propos, on va vraiment commencer par définir ce qu'est la foi. Donc, la foi, c'est un mot qui vient du latin fides, qui signifie aussi la confiance. Avoir foi en quelqu'un, c'est avoir finalement confiance en lui. Mais quand on a confiance en une personne, en amour, en une amitié ou dans une relation, on a simplement l'espoir que cela dure sans qu'on sans qu'on puisse en avoir la certitude. Et d'où en fait l'origine du doute. On ne connaît pas l'avenir, mais on avance quand même, probablement parce que on peut pas reculer. Mais la confiance est liée consubstantiellement à l'incertitude. C'est-à-dire que, en d'autres termes, à mes yeux, si tout était certain, il n'y aurait pas besoin de faire confiance. La certitude, c'est le fait de savoir, c'est avoir une preuve, une garantie. Et la confiance, au contraire, en fait, c'est croire sans preuve absolue. C'est s'en remettre à une personne ou à quelque chose sans tout maîtriser. Et donc, du coup, de fait, la foi se mûrit à travers différents doutes, elle s'approfondit au travers des interrogations. Et enracinée en fait dans le roc, je pense que la foi est néanmoins assez souple en fait pour ne pas être fixée. C'est-à-dire qu'elle va rester vive et pétillante, et si on veille sur elle par la prière, on est sûr qu'elle ne va pas mourir. Je pense qu'en soi, le fait de douter en fait, c'est pas un problème. Mais que ce doute nous fasse des chercheurs vraiment infatigables de Dieu jusqu'à ce que nous découvrons la présence de Dieu et son amour en fait. Je pense que c'est vraiment ça le but d'une certaine façon. Donc on va prendre des cas bibliques. Depuis Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, les disciples de Jésus ont douté sur sa personne. Donc si tu doutes, n'aie pas l'impression que c'est jamais arrivé à une autre personne, tu vois. C'est-à-dire que là, dans Matthieu 11 au verset 3, les disciples vont demander à Jésus, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre? Et je crois qu'il va répondre un truc du genre, je sais pas si c'est à Jean-Baptiste qu'ils ont demandé ça, je crois que oui, mais je sais qu'à un moment ils vont demander à Jésus, entre très grosses griffes, qui il est, et Jésus va leur répondre un truc du genre, et vous, qui croyez-vous que je suis? Tu vois. Et on connaît aussi le doute de l'apôtre Thomas, qui dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Donc ça, c'est Jean chapitre 20, verset 25. Et c'est très souvent l'histoire qu'on utilise pour dire « Oui, heureux ceux qui croient sans avoir vu, etc. » Et je pense du coup que le péché n'est pas de douter, mais de vouloir ne pas croire en la manifestation de l'amour de Dieu pour nous. C'est-à-dire que... on y reviendra plus tard. Et en fait, il y a un écrivain qui s'appelle Frédéric Rognon, et qui a un article qui s'appelle « La foi au risque du doute ». Il a publié ça dans la revue d'histoire et de philosophie religieuse en 2008, je crois. Et en fait, il a proposé une lecture vraiment nuancée de la manière dont la religion chrétienne peut accueillir le doute au sein même de la foi. C'est-à-dire qu'il va montrer que finalement, dans la religion chrétienne, une foi qui ne s'interroge jamais peut sombrer dans le dogmatisme ou dans l'intolérance, alors qu'une foi qui est traversée par le doute va devenir plus humaine, plus modeste, plus ouverte, et le christianisme donc n'appelle pas à une foi aveugle, mais à une foi qui est vraiment vivante, en dialogue constant avec les limites de la compréhension humaine, tu vois. Donc là, je pense déjà, on va essayer de voir comment est-ce que le doute spirituel est possible. Je pense que le premier, la première source de doute, en fait, c'est vraiment le fait que l'on croit en un Dieu qui est invisible. Et étant des mortels faits de chair, on aime bien croire en les choses qu'on voit. Et Dieu, en fait, il se complaît de vivre avec des hommes et des femmes qui n'ont pas peur d'avancer sans savoir là où le chemin les conduit et sans l'avoir vu. Il faut vraiment seulement faire confiance en Dieu et à un Dieu qu'on ne voit pas, qui communique dans le silence, qui répond sans parler. Faut savoir que ma mère avait écouté une interview il n'y a pas très longtemps, je vais essayer de retrouver la ref, mais dans laquelle l'invité disait qu'en gros, il trouve que la religion chrétienne est l'une des religions les plus difficiles parce qu'elle demande seulement aux gens de suivre Jésus. C'est-à-dire finalement, tout ce qu'on demande à un chrétien, c'est de suivre Jésus. Et il n'y a pas plus d'indications que ça, toute proportion gardée. C'est-à-dire finalement, c'est à nous de chercher en fait les réponses dans la Bible pour comprendre comment est-ce qu'on doit, entre très grosses griffes, correctement suivre Jésus, comment est-ce qu'on doit bien le faire. Et de ce point de vue-là, lui il trouve que la religion chrétienne est une religion qui est difficile à vivre, tu vois, qui est constamment traversée par le doute, et qu'en même temps c'est ce qui la rend belle d'une certaine façon. Donc là, ce qu'on doit faire en fait, c'est que on sait que Dieu nous amène vers le bien, mais nous ne savons pas tous les détails du chemin de cet objectif. Et comme on le dit, il doute profondément celui dont la foi est profonde. Dans la Genèse, par exemple, Adam, sans expérience, est tombé rapidement en croyant rapidement à ce que le premier venu lui a dit. Et la foi n'est pas un chemin tranquille fait de certitudes et d'évidences, mais au contraire, c'est une perpétuelle avancée dans le brouillard. La foi, c'est vraiment la volonté, en fait, de ne jamais arrêter de chercher, d'aller de plus en plus profondément dans le questionnement pour rencontrer celui qui est la source de notre vie, donc notre papa Dieu. Et dans ce cheminement, en fait, la simple certitude de ce que nous croyons n'existe pas tant que nous n'avons pas rencontré Dieu tel qu'il est réellement. Et le doute nous fait avancer beaucoup plus dans notre recherche des vérités divines, mais c'est en griffe un combat qu'on doit mener par nous-mêmes, parce que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent, en fait, tu vois. En fait, ensuite, plutôt, dans un second point, je dirais que le doute n'est pas toujours un tremplin de la foi. Dans le sens où il existe une forme de doute qui n'est pas forcément une force provoquant une dynamique d'approfondissement de la foi, mais c'est un doute qui, au contraire, va remettre en cause de manière permanente le fondement même de l'existence. C'est-à-dire que ce doute-là, il ne va pas nourrir ta foi, mais il va la mettre en question, et toujours la remettre en question de telle sorte à l'étouffer. C'est-à-dire que c'est un doute qui va conduire à l'immobilisme, à l'absurde et au nihilisme. C'est-à-dire que tu vas douter, en fait, de l'existence même de Dieu, Et du coup, tu vas finir par vivre comme s'il n'existait pas. Tout en sachant que c'est pas parce que tu penses que Dieu n'existe pas qu'il n'existe pas. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Dans le sens où Dieu, il existe même pour les athées, tu vois. Et quand tu finis par douter de l'existence même de Dieu et de commencer à vivre, en fait, comme si Dieu n'existe pas, tu vas finir par douter de ta mission de vie. Tu vas douter même du concept de la mission de vie. Tu ne vas pas t'engager. Tu vas finir par douter de la réalité de la vie elle-même. Et dans la logique de ce doute, la vie n'a pas de sens. On est juste là pour le one life. Et étant donné qu'on ne peut pas passer son temps à douter, il va falloir à un moment ou à un autre prendre une décision. Et dans ce cas-là, on peut finir par prendre la décision de la facilité qui est de ne plus croire. Et maintenant, je pense qu'on va parler des choses qui peuvent faire douter de l'être de Dieu lui-même. Et je me dis que parmi les choses qui font douter de Dieu, c'est-à-dire là on parle plus vraiment des choses qui font douter de la croyance en une religion, etc., mais vraiment de Dieu, je pense qu'il y a le silence de Dieu. Le psaume 12 exprime très très bien le silence de Dieu. Dans le psaume 12, on a un David qui dit « Jusqu'à quand, Yahweh, m'oublieras-tu? Jusqu'à quand vas-tu me cacher ta face? Jusqu'à quand mettrai-je en mon âme la révolte, en mon cœur le chagrin de jour et de nuit? Jusqu'à quand mon adversaire aura-t-il le dessus? Regarde-moi, réponds-moi, Yahweh, mon Dieu. » En fait, il y a des chrétiens qui pensent que dans certains moments, Dieu ne répond pas et ils gardent le silence. Ils pensent qu'ils demandent, mais Dieu n'exauce pas leurs prières. Bon, honnêtement, moi, déjà, je pense en avoir parlé dans un épisode que j'ai fait sur la prière, que je vous invite à écouter si vous ne l'avez pas encore fait. Mais je trouve que on oublie que la prière, c'est pas une formule magique, en fait. C'est-à-dire, la prière, c'est pas tu demandes et puis du coup, forcément, tu vas avoir. Et ça, je trouve que souvent, on oublie de le rappeler. C'est vrai, on demande pour recevoir et c'est comme avec tes parents, en fait. Tant que tu leur as pas demandé, tu peux pas connaître leur réponse. Bon, il y a des fois, tu peux anticiper un peu, mais tu es obligé de leur demander pour connaître leur réponse. Mais c'est pas parce que tu leur as demandé qu'ils sont obligés de te dire oui, tu vois. Il y a des choses pour lesquelles, moi, ça m'est déjà arrivé de demander un truc à mon père une fois, qu'il me dise oui et que je lui redemande exactement la même chose, genre des mois après, et que là, ils me disent non. Alors que, à mes yeux, c'était la même chose, tu vois. Et je pense qu'une chose aussi que les gens oublient, c'est que, enfin, Dieu, il nous parle continuellement, mais c'est nous qui ne comprenons pas son langage. Parce que Dieu, il parle dans la magnificence de sa création, par les événements de nos vies, par toutes les personnes qu'on rencontre, par ses prophètes, par la Bible, qui est littéralement le mode d'emploi de notre vie. Et enfin, surtout, surtout par son fils. Et Dieu n'a jamais cessé de parler, en fait. Mais quand nous ne l'écoutons pas, quand on n'est pas attentif à ce qu'il dit, quand on n'a pas forcément de place pour lui, on pense qu'il reste silencieux. Et souvent, on veut s'attendre, en fait, à des manifestations extraordinaires de la présence de Dieu, alors qu'on ne peut même pas deal avec les manifestations quotidiennes, je sais pas si tu vois. Genre là, il y a une de mes super potes, pour ne pas dire ma sœur, qui m'a envoyé tout à l'heure le témoignage d'une personne qui disait, en gros, qu'elle était un jour en train de prier dans la chambre, pas ma copine, la personne qui témoigne. Elle était en train de prier dans sa chambre et elle disait à Dieu qu'elle avait envie de le voir. Mais vraiment, elle disait ça avec les larmes et tout, genre, elle a trop envie de le voir. Et subitement, elle a senti une main lui toucher l'épaule et ça lui a fait peur, tu vois. Du coup, elle s'est levée, elle a allumé la lumière et là, brusquement, les pleurs se sont arrêtés. Et du coup, elle a commencé à se dire, mais qu'est-ce qui vient de se passer là? Et le Saint-Esprit lui a dit, tu veux me voir, mais tu peux pas supporter mon toucher. Et là, la personne a dit, en songe. C'est mieux, je préfère te voir en songe. Et en fait, genre, j'ai envie de dire, c'est un peu la même idée. Des fois, on demande, on veut absolument voir Dieu, on veut qu'il ait des grandes manifestations extraordinaires pour être sûr à 100% qu'il existe, qu'il est de notre vie, qu'il nous écoute, qu'il nous répond, que quoi. Alors que, en fait, parfois on se rend vraiment pas compte de ce qu'on demande en fait. Moi personnellement, je sais que des fois je demande des choses et après je me dis, mais est-ce que j'ai conscience de ce que je demande, tu vois? C'est vraiment comme, je sais plus si c'est Jacques et Jean qui disaient à Jésus que la coupe qu'il allait boire et bref, que il disait à Jésus en gros ce que Jésus va vivre. Eux aussi ils sont prêts à vivre ça, mais ils n'avaient aucune idée de ce dont ils parlaient, tu vois. Donc souvent le prétendu silence de Dieu auquel on a l'impression de faire face, il est soit pour notre bien, en général il est pour notre bien, mais c'est surtout que nous on n'est pas vraiment attentif à ce qui se passe, tu vois. D'autant plus que la Bible, c'est littéralement la parole de Dieu. Et souvent, les personnes qui se plaignent du silence de Dieu sont des personnes qui ne lisent pas énormément leur Bible. Et comment est-ce que tu veux entendre Dieu si tu n'es même pas habitué à écouter sa parole et à la méditer? Tu vois, tu pourrais limite être capable de ne même pas reconnaître la voix de Dieu. Donc c'est une sorte de travail personnel aussi à faire. Et je pense que... Voilà. On doit vraiment aussi essayer de chasser les bruits de nos cœurs pour écouter en fait Dieu. Maintenant, le point numéro 2 qui, je pense, peut faire douter de Dieu en lui-même, c'est le mal et sa souffrance, le mal et la souffrance alarmante. C'est-à-dire qu'actuellement, on est un peu dans des temps où la paix se fait parfois un peu incertaine et on vit des épreuves personnelles, le monde est genre hyper stressant. Quand tu regardes les informations, tu as l'impression que tout va mal. Et on a des croyants qui, pendant ces moments-là, vont se rapprocher de Dieu et être fortifiés dans leur relation. Mais on a d'autres personnes qui peuvent douter du coup de l'existence de Dieu et de son amour. On a déjà entendu, genre, je pense que tout le monde ici a déjà entendu quelqu'un lui dire, mais si Dieu existe, pourquoi il y a la guerre? Tu vois. Et dans tous les cas, ceux qui ne veulent pas lutter avec Dieu et les croyants vont genre rejeter tout ce qui les rapproche de la foi, donc comme la Bible, le chapelet, le crucifix, etc., pour abandonner leurs pratiques religieuses. Et ils vont oublier en fait que la souffrance est souvent une occasion de faire confiance à Dieu. On parle tous les jours de Job, mais Job est le meilleur exemple en fait. C'est-à-dire que il a vraiment souffert, et même s'il a douté de Dieu à un moment, il ne l'a jamais rejeté, ou il n'a jamais rejeter sa foi, tu vois. Il a littéralement perdu toute sa famille à cause d'un grand vent. Il a perdu ses richesses à cause de la guerre et d'un incendie. Il a perdu sa santé à cause d'ulcères douloureux. Dieu ne lui a pas dit pourquoi, Dieu ne lui a pas présenté des excuses, mais Job n'a pas abandonné sa foi, tu vois. Et on sait que depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est emporté de force. Et les violences s'en emparent. Donc ça, c'est en Matthieu 11, 12. Donc au final, j'ai envie de vous dire que l'épreuve de la souffrance, elle est forte. Elle nous demande de rester en éveil pour comprendre qu'elle peut en fait nous révéler un besoin, une faiblesse ou une mauvaise attitude qui a besoin d'être éliminée, je sais pas, comme... Bon, bref. Mais ce qui est sûr, c'est que enfin... Pierre, en fait, 1 Pierre, chapitre 1, les versets 6 à 7, dit: Vous en tressaillez de joie, bien qu'il vous faille encore quelque temps être affligé par diverses épreuves, afin que, bien éprouvée, votre foi, plus précieuse que l'or périssable que l'on vérifie par le feu, devienne un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Donc, tout ce qui passe dans la vie concourt en fait au bien de celui qui aime Dieu. Il y a des fois où ça semble genre vraiment difficile à croire et on a l'impression en fait que ça n'a vraiment aucun sens, mais il faut vraiment faire attention à la souffrance parce que si on ne fait pas attention en fait, au lieu de nous rendre plus forts, au lieu de nous fortifier, elle va nous briser spirituellement. Et c'est un combat, une épreuve et on sait tous par expérience que quand on n'attrape pas la main de Dieu, on peut pas gagner toutes les luttes. Donc tout dépend vraiment de notre préparation et des armes que nous utilisons. Il faut vraiment s'armer spirituellement pour espérer la victoire quand le mal va venir en fait. Donc de fait, je pense que l'on comprend tous que la foi est quelque chose à protéger, à nourrir, à garder. Donc tout d'abord, il faut, je pense, dans notre prière, enfin dans nos prières quotidiennes, vraiment rendre grâce pour le don de la foi. Il n'y a pas de foi chrétienne qui ne passe pas par l'hésitation et le doute. Une foi sans question, sans interrogation, ça pousse les personnes à tomber dans le fidéisme. C'est-à-dire que je comprends pas, je comprends rien, mais j'y crois quand même. Ou je préfère faire, mais j'aime pas trop réfléchir en fait. Et la foi est une lumière qui aide à porter ses doutes. Nous devons savoir expliquer notre foi. C'est pour cela que l'Église, dans son enseignement, cherche à expliquer les vérités révélées. Quand on arrive à une foi mûre, on doit rendre vraiment grâce à Dieu, mais c'est surtout que il faut savoir pourquoi on croit, en fait. On n'est pas juste dans une croyance bête et stupide de croire pour croire, tu vois. Le pape François, il nous rappelle que la foi est un don gratuit de Dieu qui demande l'humilité et le courage d'avoir confiance et de faire confiance afin de voir le chemin lumineux de la rencontre entre Dieu et les hommes. La foi est un don, mais il appartient à l'homme de la demander à Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez Charles de Foucault, on ne va pas s'étaler sur sa vie, mais si vous pouvez faire des recherches sur lui, ce serait cool. Et il faisait souvent cette prière de dire « Mon Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi ». La foi, c'est un don qui est gratuit. C'est ce don est gratuit, tout est grâce en fait, comme le disait Sainte Thérèse de Lisieux. Et pour Saint Paul, c'est bien par la grâce que nous sommes sauvés, moyennant la foi. Ce salut ne vient pas de nous, il est un don de Dieu. Donc ça c'est Éphésiens 2, verset 8. Et je pense que tout ce qu'on a gratuitement nous demande au moins un geste de reconnaissance et d'action de grâce. Jésus lui aussi rendait grâce à son Père. Jésus lève les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce de m'avoir écouté ça. » Ouais, je crois que j'avais mis la ref en plus, Jean 11. Les apôtres imitaient aussi leur maître en rendant grâce à Dieu. « Je remercie mon Dieu par Jésus-Christ à votre sujet à tous de ce qu'on publie votre foi dans le monde entier. » Donc ça, c'est dans Romains 1. Et on peut rendre vraiment grâce à Dieu par des paroles, des chants de louanges, mais aussi par des offrandes. Et n'oublions pas qu'il y a une puissance immense, en fait, à l'action de grâce et dans la reconnaissance, parce que souvent, on a tendance à oublier que c'est facile de demander les choses et que c'est plus compliqué, en fait, de remercier, alors que finalement, c'est nécessaire. En tout cas, ensuite, je pense qu'on peut essayer aussi de mieux manifester et de mieux vivre notre foi afin de pouvoir la conserver et sans pour autant l'imposer. Et ça, ce sera le sujet d'un autre épisode. Et la foi en Dieu se manifeste dans ce que nous lui apportons, surtout nos besoins, nos obstacles. La foi, elle se manifeste par notre persévérance, en fait, à suivre le sentier que Dieu nous trace, même face à des obstacles, même face aux périls et aux pertes apparentes. Et la foi en Dieu se manifeste, en fait, chaque fois que nous nous tournons vers sa parole pour y chercher la vie, la lumière, le chemin qui est Jésus. Et elle se manifeste dans notre obéissance à ses commandements et surtout celui de l'amour. Et vu qu'il faut protéger notre foi, je pense qu'en fait, nous les croyants, on est comme des voyageurs qui traversent le désert. Et la foi, c'est notre eau spirituelle à protéger, sinon elle va s'évaporer. Et cette foi, elle doit être vraiment nourrie régulièrement pour ne pas mourir. Le pire ennemi de la foi, c'est le diable. Je suppose que je ne vous apprends rien, mais ce dernier transforme en fait le monde en un champ où il est difficile de cultiver sa foi. Mais nous ne devons pas céder à ses tentations. Il faut coûte que coûte s'attacher à Dieu, sinon on sera en fait anéanti. Et Saint Jacques nous révèle ce que nous devons faire pour protéger notre foi. Saint Jacques, il dit que l'on doit se soumettre à Dieu, résister au diable, et alors le diable fuira loin de nous. On doit s'approcher de Dieu et Dieu s'approchera de nous. On doit purifier nos mains, sanctifier nos cœurs et ainsi on protégera notre foi. Donc ça c'est Jacques chapitre 4, les versets 7 à 8. Bon, j'ai tout reformulé pour que la phrase soit limpide, mais vous verrez que voilà, c'est vraiment ça l'idée. Et nous savons que la foi vient par l'écoute et la pratique de la parole de Dieu, qui est contenue dans la Bible. Et Saint Paul nous le dit, La foi naît de la prédication et la prédication se fait par la parole de Jésus. Donc Romains 10, verset 17. C'est donc ce qui fait naître la foi, qui la fait grandir et qui la protège. Et là, on parle de la parole de Dieu. On ne peut pas protéger notre foi sans le concours de la parole de Dieu. En fait, en tant que chrétien, on peut juste pas faire l'économie de la Bible. Genre vraiment, voilà. Moi, vraiment, le fait d'avoir commencé à lire ma Bible tous les jours, ça a littéralement changé ma vie. Genre, je sens en fait la différence dans les journées où je lis ma Bible et celles où je ne lis pas. C'est pas que celles où je lis pas ma Bible, il m'arrive une ribambelle de catastrophes, mais au fond de moi, je sens une différence en fait. Et voilà, bref. Ce qui est sûr, c'est que je pense que... On va essayer de faire une conclusion, ok? Donc, le doute, le vacillement ou l'affaiblissement même de la foi, c'est pas un problème en soi pour un croyant, mais c'est une sorte d'épreuve. Et lorsqu'elle arrive, Dieu est en fait près de nous pour nous soutenir. On devient plus fort si on résiste à la tentation et quand on sort du doute, la fidélité et la confiance en Dieu deviennent en ressentent plus fortes. Limite totale. Et nous demandons chaque fois par la prière du Notre Père que Dieu ne nous laisse pas rentrer en tentation. Et nous devons donc continuer incessamment à prier, car la prière nous aide à aller plus loin avec Dieu. Et nous devons prendre certaines mesures pour renforcer notre foi, parce qu'elle est appelée à grandir et à devenir forte afin d'arriver à sa maturité. Et comme le dit Jésus, la grandeur de la foi est relative. C'est-à-dire que finalement, là je vais... Allez, verset. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacera, et rien ne vous sera impossible. Amen. Matthieu 17, verset 20. Donc, ce sont des œuvres ou des actes qui expriment la foi. Comme dit l'apôtre Jacques, c'est par des œuvres que je te montrerai ma foi. Donc, Jacques chapitre 2, verset 18. Et pour ceux qui nous voient et ne doute pas de Dieu et de son amour. Et je pense vraiment, essayons juste de vivre quotidiennement notre foi dans la joie à travers tout ce que nous faisons. Au point que finalement, on puisse nous voir et dire, lui c'est un chrétien, tu vois. Bref, on n'a rien à prouver, mais c'est un peu l'idée. L'idée que dans tout ce que nous faisons, en fait, nous imitons Jésus et que cela se voit, que cela se sache et que cela soit clair et net et que nous faisions de notre mieux en fait pour toujours rester proche de Jésus. Voilà, donc j'ai kiffé faire cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, on est sur du 28 minutes donc on n'est pas très long, j'ai fait beaucoup plus long donc je suis très fière de moi, j'espère que vous allez aimer et n'hésitez pas à me donner vos retours. Très belle semaine à vous et que Dieu vous bénisse.